Chapitre 13. Nous voici arrivés à ce fameux hôtel de Rambouillet et à ses hôtes qui firent tant de bruit pendant un bon tiers du XVIIe siècle. L'hôtel de Rambouillet était situé rue Saint-Thomas-du-Louvre à Paris. C'était l'ancien hôtel Pisani qui avait changé de nom et qui était devenu la propriété de Madame de Rambouillet, du chef de son père. L'hôtel de Rambouillet, proprement dit, avait été vendu en 1606 par le marquis de Rambouillet au prix de 34 500 livres tournois à Pierre Forger du Frény, lequel le revendit en 1624 au prix de 30 000 écus au cardinal de Richelieu. Le cardinal ne le rachetait que pour le faire raser et faire élever en son lieu et place le palais cardinal, depuis le palais royal. Quant à la maison de Rambouillet, c'était une branche de la maison d'Angenne qui, dès le XIVe siècle, posséda la terre de Rambouillet et qui produisit quelques personnages remarquables. Entre autres, Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet, favori de François Ier, capitaine de ses gardes, etc. Charles d'Angennes, cardinal de Rambouillet, qui fut évêque du Mans, assista au concile de Trente et fut ambassadeur auprès de Grégoire XIII. Enfin, Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, maréchal de Caen et ambassadeur en Piémont et en Espagne, lequel n'est autre que le fameux marquis de Rambouillet, époux de Catherine de Vivonne et père de la célèbre Julie Lucine d'Angennes, qui épousa M. de Montausier, type de l'Alceste du misanthrope. Le grand-père, Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet, était un homme fort grave. Un jour qu'il avait disputé avec sa femme, il lui demanda une trêve comme il l'eût fait à l'ennemi sur le champ de bataille. Sa femme la lui accorda. Alors, s'adressant à elle, « Madame, lui dit-il, faites-moi le plaisir de me prendre par la barbe. » On portait, à cette époque, la barbe longue et les cheveux courts. « Pourquoi faire ? » demanda la femme étonnée. « Prenez toujours. » Elle prend son mari par la barbe. « Tirez, dit le seigneur de Rambouillet. « Mais je vous ferai mal. » « Ne vous inquiétez point, tirez. » Elle tire. « Plus fort. » « Mais, monsieur !»« Non, non, tirez de toute votre force. Tirez, tirez !» Elle tire à en perdre haleine. « Ah, par ma foi, monsieur, dit-elle, je ne puis davantage. »« Vous y renoncez ?»« Oui, à mon tour. » Il lui prend quelques cheveux et tire. La dame crie, lui continue de tirer. Elle crie plus fort, lui tire toujours. Enfin, elle appelle à l'aide. Il la lâche, puis sérieusement, « Vous voyez, lui dit-il, que je suis plus fort que vous. Dans votre intérêt, je vous prie, ne nous battons donc pas. » Madame de Rambouillet comprit la parabole et devint, sur la chronique, d'une douceur charmante à l'endroit de son mari. À propos, nous oublions, dans la liste des hommes éminents de cette maison, le père du marquis qui fut vice-roi de Pologne en attendant l'arrivée de Henri III. Henri III arrivé, « Sire, dit le marquis de Rambouillet, j'ai une somme considérable à vous remettre entre les mains. C'était plus de 100 000 écus. Vous vous moquez, monsieur de Rambouillet, c'est votre épargne. » « Soit, insista le marquis, prenez toujours, car vous en aurez bon besoin. » Henri III prit l'argent et, en effet, s'en trouva bien. Après la bataille de Jarnac, le même Henri III, qui n'était encore que duc d'Anjou, manda au roi Charles IX que l'on devait le succès de la journée à M. de Rambouillet. Charles IX écrivit au marquis pour l'en remercier. On gardait précieusement la lettre dans la famille. M. de Rambouillet avait été fort lié avec le maréchal d'Ancre. Il disait que celui-ci était un homme qui avait tellement peur de se compromettre que, lorsqu'on lui demandait l'heure qu'il était, pour toute réponse, il tirait sa montre et faisait voir le cadran. Mais laissons ce marquis de Rambouillet et terminons-en avec le nôtre. Nous avons dit qu'il avait été ambassadeur en Espagne. C'était sous le cardinal-duc et à propos de la Valteline. Il pensa faire mourir le comte-duc enragé. C'est M. d'Olivares, que l'on désignait alors par le titre de comte-duc, comme on désignait M. de Richelieu par celui de cardinal-duc. Le comte d'Olivares se faisait donner de l'excellence et n'en voulait pas donner aux autres. Ce que voyant M. de Rambouillet, il refusa d'entamer aucune affaire qu'on ne lui donnât le même titre qu'au comte-duc. Il disait à ce sujet qu'étant ambassadeur extraordinaire et nourri aux dépens du roi d'Espagne, c'était une grande économie pour lui de gagner du temps, qu'il n'était donc pas pressé et qu'il ne demandait pas mieux que de finir ses jours à Madrid, où il se trouvait beaucoup mieux que dans son hôtel de la rue Saint-Thomas du Louvre, que Madame de Rambouillet n'avait pas encore fait arranger à cette époque. Enfin, le comte-duc céda sur un point, M. de Rambouillet céda sur un autre, et s'il n'y eut pas de l'excellence, il y eut au moins du vos. Il possédait un talent merveilleux pour mettre le comte-duc en colère et lui faire dire tout ce qu'il avait sur le cœur, tandis que lui, quoiqu'il enrageât intérieurement, n'en laissait jamais rien voir au dehors, sauf un petit tremblement nerveux dont ses amis seuls s'apercevaient. Comme il avait la vue très courte et la bourse mal garnie, les Espagnols disaient de lui « Monsieur l'ambassadeur est aussi court de bourse que de vue ». Au reste, d'après le portrait qu'en fait Allemand des Réaux, ce devait être un admirable diplomate. « Il n'y avait, dit le chroniqueur, que Dieu qui pût lui ôter de la tête ce qu'il y avait mis une fois. Il avait terriblement d'esprit, mais frondeur, et persuadé que l'État n'irait jamais si bien s'il ne gouvernait. C'était un des plus grands disputeurs qui ait jamais été. À cet égard, il avait bien trouvé chaussure à son pied en son gendre Montausier. M. de Rambouillet mourut à l'âge de 75 ans, sans avoir été longtemps malade. On prévint M. et Mme de Montausier du danger où était leur père. Mais, quoiqu'ils eussent des reprises à faire à sa mort, ils répondirent que, tant que leur mère vivrait, ils n'avaient absolument rien à prétendre. Le marquis laissa sa fortune dans un état déplorable. La bonne administration de sa veuve rétablit peu à peu les choses. Puis, M. et Mme de Montausier, n'ayant plus à craindre cette discussion incarnée, vinrent demeurer à l'hôtel. Ce qu'ils n'auraient fait pour rien au monde du vivant de M. de Rambouillet. Passons à la marquise. Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, était fille de Jean de Vivonne, marquis de Pisani, et de Julia Savelli, de la vieille maison romaine des Savelli. Elle était née en 1588. Elle avait épousé, en 1600, le marquis de Rambouillet, auquel elle avait apporté 10 000 écus de son personnel. À l'époque où nous sommes arrivés, elle avait donc 44 ans. Sa mère, comme nous l'avons dit, et comme son nom le dit bien mieux que nous, était une grande dame. On en faisait grand cas à la cour du Louvre, et Henri IV l'envoya, avec Madame de Guise, recevoir la reine-mère à Marseille. Elle était mariée, à un peu plus de 11 ans, avec le vidame du Mans. Madame de Rambouillet avait toujours fort aimé les belles lettres. À l'âge de 20 ans, elle allait apprendre le latin, dans le seul but de lire Virgile, quand une maladie l'en empêcha. Elle était habile en toutes choses. Elle avait été elle-même l'architecte du nouvel hôtel de Rambouillet. Mal satisfaite de tous les dessins qu'on en avait faits, elle se mit à rêver à l'œuvre de cette construction. Tout à coup, on l'entendit crier « du papier, vite! J'ai trouvé ce que je cherchais !» C'était Archimède et son Eureka. On lui apporta le papier demandé, une règle, un crayon, un compas. La même nuit, le plan géométral de l'hôtel de Rambouillet était achevé. On suivit le dessin de point en point. Ce fut d'elle que les gens du métier apprirent à mettre les escaliers sur les côtés pour avoir une longue suite de chambres. Avant elle, on ne savait faire qu'un salon à droite, une chambre à gauche, avec l'escalier au milieu. Ce fut encore d'elle qu'on apprit à exhausser les planchers, à faire des portes et des fenêtres hautes et larges et à les placer vis-à-vis les unes des autres. Aussi, quand la reine-mère bâtit le Luxembourg, ordonna-t-elle aux architectes d'aller visiter l'hôtel de Rambouillet et de soumettre leurs plans à la marquise. Jusque-là, on n'avait peint les chambres qu'en rouge. Madame de Rambouillet eut l'idée de faire tapisser la sienne couleur d'azur, d'où vint le nom historique de la fameuse chambre bleue. La chambre bleue, dit Sauval, l'auteur des Antiquités de Paris, si sévère dans les œuvres de voiture, était parée d'un ameublement de velours bleu rehaussé d'or et d'argent. C'était celui où Arthénis recevait ses visites. Les fenêtres sans appui, qui règnent de haut en bas depuis son plafond jusqu'à son parterre, la rendent très gaie et laissent jouir sans obstacle de l'air, de la vue et du plaisir du jardin. L'hôtel de Rambouillet était, pour ainsi dire, le théâtre de tous les divertissements. C'était le rendez-vous de ce qu'il y avait de plus galant à la cour et de plus poli parmi les plus beaux esprits du siècle. Or, ces réunions préoccupaient fort le cardinal. Ne pouvant y assister, il désirait au moins savoir ce qui s'y disait. Il en résulta qu'un jour, il envoya Boisrobert à Madame de Rambouillet pour lui promettre son amitié si elle voulait lui donner avis de ceux qui parlaient mal de lui chez elle. Madame de Rambouillet se contenta de répondre que chacun connaissait trop la considération et le respect qu'elle portait à son éminence pour en mal parler chez elle. Boisrobert n'en put tirer autre chose. Elle fut encore plus claire et plus précise dans une autre circonstance, car le cardinal ne s'était point tenu pour battu. Comme M. de Rambouillet était en Espagne, il envoya le père Joseph chez la marquise. Un mot sur le père Joseph, qu'on appelait l'éminence grise. Nous reviendrons ensuite à Madame de Rambouillet. Le père Joseph de l'ordre des Capucins se nommait François Leclerc du Tremblay. Il était né à Paris le 4 septembre 1577 et était le frère de M. du Tremblay, qu'il avait fait nommer gouverneur de la Bastille. Ayant été envoyé par ses supérieurs dans le Poitou, comme il n'était encore que simple abbé, il eut ainsi l'occasion de se faire remarquer du cardinal, qui dès lors le prit pour son confident. C'était un intrigant avec un esprit tout de feu. Il avait passé une partie de sa vie à prêcher la guerre sainte. Ce fut d'abord contre le grand Turc qu'il dirigea sa croisade. Tous les jours, en compagnie de M. de Mantoue, de M. de Brève et de Mme de Rohan, il conquérait les états du sultan et prenait Constantinople. Après le Turc, vint le tour de la maison d'Autriche. Le révérend père se vantait d'être né pour abattre l'Empire, se croyant bon à tout, au métier des armes comme à son métier de capucin. Un jour qu'il prenait Vienne sur la carte, il montra au colonel écossais Heilbrunn la route qu'il comptait suivre, indiquant cette route avec l'index. « Nous passerons telle rivière ici, disait-il, tel fleuve là. » « Eh, monsieur, lui dit le colonel, pour passer si facilement rivières et fleuves, prenez-vous votre doigt pour un pont ?» Le père Joseph soulageait fort le cardinal-duc. Il faisait ses courses, ses commissions secrètes ou autres. Il les faisait d'abord à cheval. Mais un jour, ayant rencontré en route le père Ange Sabini, moine du même ordre, qui avait un cheval entier, tandis que lui, Joseph, avait une jument, il s'ensuivit un groupe dans lequel les capuchons des deux moines jouaient un rôle si grotesque que le cardinal se décida à donner un carrosse à son factotum. Une personne de la cour eut la curiosité d'aller faire une visite au couvent où était le père Joseph avant qu'il vînt à Paris. Comme la faveur dont jouissait l'ancien frère auprès du cardinal était une source de bien-être et d'aubaine pour le monastère, on y avait conservé une espèce de culte pour l'éminence grise. « Oh ! Dit le frère gardien en joignant les mains, « ne nous apprendrez-vous rien, cher monsieur, du bon père Joseph ?»« Il se porte bien, répondit le visiteur, et est exempt de toute espèce d'austérité. »« Le pauvre homme ! S'écria le gardien. « Il a une excellente litière quand il voyage. »« Le pauvre homme !»« Enfin, il est en grand crédit à la cour et les plus fiers seigneurs le cultivent avec soin. »« Le pauvre homme !» Plus le visiteur enchérissait sur la bonne position du père Joseph, plus le frère gardien s'écriait « Le pauvre homme !» Le conte fut fait à Molière, qui en tira parti et en fit une des scènes les plus comiques du Tartuffe. C'est, comme on sait, le père Joseph qui mena toute la diablerie de Loudun. Il avait à se venger d'Urbain Grandier, à qui les Capucins disputaient la direction des religieuses et qu'il avait emporté sur les Capucins. L'Aubardemont se trouvait à Loudun pour veiller à la démolition du château fort lorsque la possession commença. Il rendit compte au roi et au cardinal et fut chargé par eux d'informer. On sait comment il informa. Donc le père Joseph fut, comme nous le disions, envoyé chez Madame de Rambouillet. Arrivé là, il commença par donner un prétexte honnête à sa visite. Puis, sans faire semblant de rien, parla à la marquise de l'ambassade de son mari, lui dit que le cardinal voulait profiter de la circonstance pour faire quelque chose de considérable à son endroit, mais qu'il fallait que, de son côté, Madame de Rambouillet donnât à Monseigneur une petite satisfaction qu'il désirait d'elle. La marquise répondit qu'elle était prête à donner toute satisfaction au cardinal, mais qu'encore était-il bon qu'elle sût de quoi il s'agissait. « Madame, lui dit le messager, vous savez qu'un premier ministre ne peut prendre trop de précautions. Monsieur le cardinal désire savoir, par votre moyen, les intrigues de madame la princesse et du cardinal Lavalette. » « Mon père, repartit la marquise, je ne crois pas que madame la princesse et le cardinal Lavalette aient aucune intrigue. Mais quand ils en auraient, veuillez dire à son éminence que je ne me sens pas propre au métier d'espion. » Un des grands plaisirs de madame de Rambouillet était d'envoyer de l'argent aux gens sans qu'ils sussent d'où venait cet argent. On lui disait un jour que donner était un plaisir de roi. « Vous vous trompez, reprit-elle, c'est un plaisir de Dieu. » Elle ne pouvait souffrir les femmes qui avaient pour amants des gens d'église. « C'est une des choses pour lesquelles je suis aise de n'être point demeurée à Rome, disait-elle. J'étais bien sûre de ne pas faire de mal, mais à coup sûr on en eût dit de moi et je fusse morte de rage le jour où le bruit se serait répandu que j'étais la maîtresse du cardinal. » C'était la meilleure amie qu'il y eût au monde. Arnaud d'Andilly, fils d'Antoine Arnaud, et dont la brusquerie allait souvent jusqu'à la brutalité, se posait devant elle en professeur d'amitié et lui donnait des leçons dans l'art d'aimer son prochain. « Feriez-vous telle ou telle chose pour un de vos amis ? » demandait-il à la marquise, croyant que la chose qu'il indiquait serait un grand sacrifice pour elle. « Comment ? » répondit madame de Rambouillet. « Mais ce que vous dites là, si je savais qu'il y eût un honnête homme aux Indes, ne l'eussé-je jamais vu, ne dussé-je jamais le voir, je le ferais pour lui sans hésiter. » Alors, reprit monsieur d'Andilly, s'il en est ainsi, vous êtes plus forte que moi en amitié, madame, et je n'ai rien à vous montrer. Elle avait la manie de faire des surprises. Un jour, Philippe de Cospéan, évêque de Lisieux, l'étant venu voir à Rambouillet, elle lui proposa une promenade. L'évêque accepta. Il y avait au pied du château une grande prairie, et au milieu de cette prairie, un cercle de grosses roches entre lesquelles s'élevaient de grands arbres qui formaient un ombrage charmant. C'était la retraite de prédilection de Rabelais. Le curé de Meudon s'y divertissait fort, à ce qu'on rapporte, et l'on montrait une roche creuse et enfumée que l'on appelait la marmite de Rabelais. Pour en revenir à la marquise, elle proposa donc à monsieur de Lisieux une promenade dans la prairie et le conduisit du côté de ces roches. À mesure qu'il approchait, il lui semblait voir dans les interstices quelque chose de brillant dont il ne pouvait se rendre compte. Bientôt, il crut reconnaître des femmes, et des femmes vêtues en nymphes. Alors, se tournant vers la marquise, « Mais voyez donc, madame » cria-t-il, « mais madame, voyez donc !» Elle l'entraînait toujours en avant, ne répondant que par ces mots, « Je ne sais pas ce que vous voulez dire !» Enfin, on se trouva tout près du groupe mythologique. C'était mademoiselle de Rambouillet et toutes les demoiselles de la maison, effectivement vêtues en nymphes et qui, assises sur des roches, offraient, dit la chronique, le plus charmant spectacle du monde. Le bon évêque, au reste, en fut si charmé que depuis, il ne voyait jamais la marquise sans lui parler des roches de Rambouillet. Ce Philippe de Cospéan, qui aimait tant les nymphes et qui s'en cachait si peu, avait une certaine réputation comme prédicateur. Bossuet lui dédia sa première thèse de philosophie. Voici comment il avait fait la connaissance de la marquise. La belle-mère de celle-ci, venue passer le carême à Rambouillet, demanda un prédicateur pour son usage particulier. « Si elle veut se contenter de 3 sermons par semaine, répondit l'évêque, je suis son homme. » C'était fort raisonnable. La pieuse belle-mère s'en contenta. Alors l'évêque vint au château, fit connaissance du marquis et de la marquise de Rambouillet et resta lié avec eux. Il avait connu M. de Vendôme en Bretagne. Quand M. de Vendôme fut arrêté avec le grand prieur, lui seul osa parler au cardinal en faveur du prisonnier. Il fut d'abord évêque d'Aire, puis de Nantes, puis de Lisieux. Quand il passa de Nantes à Lisieux, comme l'évêché était beaucoup plus considérable, « Vous allez avoir plus grande charge d'âme, lui dit-on. « Bah, répliqua-t-il, je sais de bonne part que les Normands n'en ont pas. » C'était un homme très reconnaissant, ainsi que le prouve l'anecdote suivante. Comme il avait sacré l'évêque de Ry et que le nouveau prélat venait l'en remercier, « Hélas, monseigneur, dit-il, c'est à moi de vous rendre grâce. »«
Comment cela ?»«
Sans doute, avant que je vous eusse sacré, j'étais le plus laid des évêques de France. »
Revenons à Madame de Rambouillet. Elle avait eu 6 enfants. Madame de Montausier était la première, Madame d'Hyères la seconde, le marquis de Pisani le troisième. Puis venait encore un garçon qui mourut de la peste à 8 ans. Sa gouvernante alla voir un pestiféré et, en quittant le lit de cet homme, revint à l'enfant, qu'elle eut la sottise d'embrasser. Elle et lui moururent de la peste. Madame de Rambouillet, Madame de Montausier et Mademoiselle Paulet, chez laquelle allait Henri IV lorsqu'il fut assassiné rue de la Ferronnerie, soignèrent nourrice et enfants jusqu'au dernier soupir et n'en furent nullement incommodés. Puis venait Madame de Saint-Étienne, puis Madame de Pisani. Le marquis de Pisani naquit beau, droit et bien conformé. Il promettait d'être un vrai Rambouillet, c'est-à-dire d'avoir un jour 5 pieds 8 pouces. Tout le monde, père, mère et sœur, était grand dans la maison, et l'on disait, en parlant d'eux, les sapins de Rambouillet. Mais il arriva que, la nourrice du jeune marquis l'ayant laissé tomber, il eut, sans que personne le sût, l'épine du dos démise, de sorte qu'il en devint contrefait, et que non seulement son corps, mais son visage même en fut gâté. Il demeura donc petit et bossu comme un sac de noix. En revanche, il avait grand esprit et grand cœur, mais peu ou point d'éducation. Craignant qu'on ne le fît d'église, il n'avait jamais voulu étudier, et cependant il raisonnait comme s'il eût en tête toute la logique du monde. Malgré son infirmité, qui faisait de lui quelque chose de monstrueux, il était bien reçu des dames, fort débauché du reste et aimant le jeu à en enrager. Ce qui faisait qu'il n'avait jamais le sou. Un jour, pour avoir de l'argent, il fit accroire à son père et à sa mère, qui, en 28 ans, n'avaient couché qu'une nuit à Rambouillet, qu'il y avait du bois mort dans le parc et qu'il le faudrait ôter. On le chargea de ce soin et il fit couper 600 cordes du plus beau et du meilleur. Il était grand ami de Monsieur le Prince, disputant toujours avec lui, et malgré la terrible figure qu'il faisait à cheval, le voulant suivre dans toutes ses campagnes. On l'appelait le chameau du bagage de Monsieur le Prince. Il y avait un gros gueux qui demandait l'aumône à la porte de l'hôtel de Rambouillet. Un jour la marquise, en sortant, lui dit « Pisani, donne donc à ce pauvre homme !»«
Peste, madame, répondit Pisani, je m'en garderai bien. » J'ai entendu dire qu'il était riche comme le roi, et je compte lui emprunter un de ses jours 1000 écus. Il fut tué à la bataille de Nördlingen. Il était à l'aile du maréchal de Gramont qui fut rompu. Le chevalier de Gramont, d'historique mémoire, lui dit « Viens par ici, Pisani !» Mais lui secoua la tête, disant « Je ne veux pas me sauver en si mauvaise compagnie. Merci, chevalier !» Et il tira du côté opposé, tomba dans un parti de Croates et fut massacré. Nous avons dit qu'à la mort de leur père, M. de Montausier et sa femme allèrent demeurer chez Mme de Rambouillet. Ils y prirent l'appartement du défunt et en firent un appartement à la fois commode et magnifique. La marquise s'amusait à versifier. Un jour, de la fenêtre de sa chambre, rue Saint-Thomas-du-Louvre, elle aperçut un jet d'eau dans le parterre du logement de Mademoiselle aux Tuileries. N'ayant, elle, pour son compte qu'une maigre fontaine, l'envie lui prend d'avoir un jet d'eau, ni plus ni moins qu'une princesse du sang. Elle en parle à Madame d'Aiguillon, qui lui promet d'en toucher un mot au cardinal, et qui, malgré sa promesse, est quelque temps à lui répondre. Alors, pour lui rendre la mémoire, Madame de Rambouillet lui adressa ce quatrain. « Orante, dont les soins obligent tout le monde, garde que le cristal dont se forme cette onde, qui, dans le grand parterre à son trône établi, à la fin ne se perde au fleuve de l'oubli. » Cette fontaine de Mademoiselle, dont le mince filet d'eau faisait si fort envie à la marquise, avait cependant été chantée par Malherbe. C'est pour elle que le poète fit cette inscription. « Vois-tu, passant, couler cette onde et s'écouler un continent ? Ainsi fait la gloire du monde, et rien que Dieu n'est permanent. » Toute jeune encore, la marquise avait été atteinte d'une singulière infirmité. Le feu lui échauffait étrangement le sang et la faisait tomber en faiblesse. Comme elle était très frileuse et aimait passionnément à se chauffer, elle ne s'en abstint pas tout d'abord.
Au contraire, ayant franchi l'été, elle voulut, dès que le froid fut revenu, voir si son incommodité continuait. Elle trouva que les 8 mois écoulés n'avaient fait qu'augmenter le mal. Elle essaya de nouveau l'hiver suivant, mais alors elle ne pouvait plus du tout supporter le feu. Puis, au bout de quelques années, ce fut au tour du soleil de lui causer les mêmes douleurs que le feu. C'était bien pis. Cette fois, elle ne voulait absolument pas se rendre. Personne plus qu'elle n'aimait à se promener. Mais un jour qu'elle se rendait à Saint-Cloud, elle n'était pas encore à l'entrée du cours qu'elle s'évanouit. On lui voyait le sang dans les veines. Il est vrai qu'elle avait la peau fort délicate. Plus elle avança en âge, plus cette étrange incommodité augmenta. Une bassinoire qu'on oublia par mégarde sous son lit lui donna un érésipèle. À partir de ce moment, Madame de Rambouillet fut condamnée à rester chez elle. Cette nécessité lui fit emprunter aux Espagnols la mode des alcôves. Quand il gelait, elle se tenait sur son lit, les jambes dans un sac de peau d'ours, tandis que les visiteurs, quand ils avaient froid, allaient se chauffer dans les antichambres. Mécontente des prières que l'on trouve dans les livres de messe, Madame de Rambouillet s'en était composée pour son usage particulier. Puis elle les donna à M. Conrart pour les faire copier par Nicolas Jarry, le plus célèbre des calligraphes du XVIIe siècle. M. Conrart les fit copier et même relier. Après quoi, il les rendit à la marquise. « Monsieur, avait dit Jarry en rapportant les prières à celui qui les lui avait données à copier, laissez-moi prendre quelques-unes de ces prières, car dans les heures que l'on me fait copier, il y en a de si sottes que j'ai honte de les transcrire. » Madame de Rambouillet avait, pour certaines choses, la prétention de la double vue. Ainsi, le roi Louis XIII étant à l'extrémité, on disait « Le roi mourra aujourd'hui, le roi mourra demain. » « Non, dit Madame de Rambouillet, il ne mourra que le jour de l'Ascension. » Le matin de l'Ascension, on lui annonça que le roi se portait mieux. « N'importe, répondit-elle, il n'en mourra pas moins ce soir. » Et, en effet, le soir, il mourut. Au reste, elle détestait le roi Louis XIII, sentiment qui lui était commun avec les trois quarts de la France. Seulement, chez elle, cette haine allait si loin que Mademoiselle de Rambouillet disait « J'ai peur que l'aversion de ma mère pour le roi ne la fasse damner. » La marquise de Rambouillet mourut, elle, le 27 décembre 1665, à l'âge de 78 ans. À part cette incommodité de ne pouvoir sentir le feu et celle de branler la tête, qu'elle attribuait à un trop grand abus de pastilles d'ambre, elle n'avait rien d'une vieille femme, ayant conservé le teint très beau. Une maladie lui avait rendu les lèvres d'une vilaine couleur, et aux lèvres seulement elle mettait du rouge. Elle avait, au reste, l'esprit et la mémoire aussi nettes qu'à 30 ans. Elle lisait toute la journée, sans avoir la vue le moins du monde fatiguée. Talmant d'Héréo, son amie intime, ne lui trouvait qu'un défaut, c'est d'être un peu trop persuadée que la maison Savelli, de laquelle, nous l'avons dit, elle descendait par sa mère, était la première maison, non seulement de Rome, mais encore du monde entier. Cette maison avait, en effet, donné 2 papes. Honoré III, mort en 1227, et Honoré IV, mort en 1287. Vers la fin de sa vie, Madame de Rambouillet avait composé elle-même son épitaphe. Nous la retrouvons dans Ménage. Ici gît Arthénis, exempte des rigueurs dont la rigueur du sort l'a toujours poursuivie. Si tu veux, passant, compter tous ses malheurs, tu n'auras qu'à compter les moments de sa vie. Passons maintenant à Madame de Montausier. Nous avons déjà dit qu'elle se nommait Julie Lucine d'Angennes. Lucine, malgré son surnom mythologique, qui rappelle un de ceux de Junon, n'était point une déesse païenne. C'était, au contraire, la seconde sainte de la maison Savelli, car, outre ses 2 papes, la maison Savelli avait eu une sainte, ce qui est bien autrement rare dans les grandes maisons romaines. Au reste, Lucine était un prénom de famille. La mère et la grand-mère de Madame de Montausier l'avaient portée avant elle, et dans la maison Savelli, on avait depuis 2 ou 3 siècles contracté l'habitude de joindre ce nom à celui des filles en les baptisant. Après Hélène, sans avoir toutefois causé la ruine d'un empire, Julie d'Angennes, qu'on nous laisse l'appeler comme l'appelaient ses adorateurs, est bien certainement la femme dont la beauté a été le plus chantée. et cependant, quoique de taille grande et élégante, elle n'était pas précisément belle. Seulement, elle avait le teint éclatant, dansait admirablement bien, faisait tout avec infiniment de grâce et d'esprit, et était en tout point une charmante personne. Elle eut des amants de plusieurs sortes, disent les chroniqueurs du temps. Mais le mot « amant » n'avait point, à cette époque, la signification qu'il a aujourd'hui. Il voulait seulement dire « aimant, amoureux ». Les principaux sont Voiture et Arnaud. Le dernier n'eut jamais de prétention qu'au titre de martyr. Quant à Voiture, fort entreprenant de caractère, c'était autre chose. Un jour qu'il tenait les mains de Mademoiselle de Rambouillet, il s'émancipa jusqu'à lui baiser le bras. Mais elle lui témoigna si hautement que cette hardiesse ne lui plaisait point, qu'elle lui ôta l'envie de prendre une autre fois la même liberté. Paris s'occupa tout un mois de cette hardiesse de Voiture, et elle est consignée dans le Ménadjan, tome 2, page 8, édition de 1715. Pour M. de Montausier, avant de devenir le mari de la belle Julie, il avait été son mourant pendant une douzaine d'années. Mourant est un terme du temps qui tenait le milieu entre amant et martyr. Il avait d'abord été question de marier Julie avec M. de Montausier l'aîné, frère de celui qui l'épousa. Mais la personne qui s'était faite l'intermédiaire de ce mariage, François Le Breton Villandry, confisqua le futur à son profit, de sorte que le mariage manqua. Ce n'était point une petite affaire, en effet, que de marier Mademoiselle de Rambouillet. Elle n'appartenait pas à ses parents, elle appartenait encore moins à elle-même. Elle appartenait à l'hôtel de Rambouillet, c'est-à-dire à toute une coterie de beaux esprits dont elle était l'âme et qui ne la voulait lâcher pour rien au monde. Aussi, un jour que l'on disait à M. de Rambouillet qu'il ne devait marier sa fille qu'à quelqu'un qui ne la pût point éloigner de la capitale, « Alors, dit le marquis, il faut donc la marier à l'archevêque de Paris. »« Gardons-nous-en bien, s'écria Voiture. Messieurs les prélats ont une telle aversion pour la résidence que, sur les 12 mois dont se compose l'année, l'archevêque en passe 8 à Saint-Aubin-d'Angers. » Achevons l'histoire de M. de Montausier aîné, que l'on appelait le marquis de Montausier. En arrivant à la cour, la première connaissance que fit le marquis fut cette demoiselle Françoise Le Breton Villandry, femme de Jean Aubry, conseiller d'État ordinaire. Madame Aubry traitait terriblement son mari de haut en bas, dit la chronique. Il était quelquefois 3 mois à la prier pour obtenir d'elle, une fois, ce que Louis XV appelait le devoir. Un jour qu'elle parlait à M. de Montausier de l'hôtel de Rambouillet et qu'elle lui faisait un grand éloge de la compagnie qui y tenait assemblée, « Eh bien, madame, lui dit le marquis, menez-m'y. » « Oh !» s'écria Madame Aubry, « Menez-m'y, Saint-Angeois que vous êtes. Apprenez d'abord à parler, je vous y mènerai après. » Et, en effet, de 3 mois, elle ne l'y voulut mener, prétendant toujours qu'il avait des façons de parler qui feraient tâche avec le langage des précieuses et précieuses. Sur ces entrefaites, la guerre survint. Le marquis était homme de guerre endiablé. Il se jeta dans Casal et eut part aux grands exploits qui s'y firent. Il arrêta notamment toute l'armée du duc de Savoie devant un pont dont le passage paraissait ne pouvoir être défendu. Mais il fit bien autre chose encore. Étant amoureux d'une dame piémontaise et la ville où elle était se trouvant assiégée, il se déguisa en capucin, entra dans la ville, se fit reconnaître, prit le commandement de la garnison et y tint contre toute probabilité. À son retour d'Italie, il retrouva Madame Aubry sur sa route. Elle jeta de nouveau le filet sur lui et il redevint son favori. Seulement, comme il fallait un prétexte, non pas aux yeux du mari, le bon conseiller ne voyait que ce que sa femme lui permettait de voir, mais aux yeux du monde, pour demeurer du matin au soir et quelquefois plus tard dans la maison, on fit courir le bruit que le marquis recherchait Mademoiselle Aubry, qui épousa depuis Louis de la Trémouille, duc de Noirmoutier. Cela dura ainsi 4 ans. Cette Madame Aubry était, paraît-il, fort agréable, sans être précisément belle. Elle avait le teint clair, la taille souple et était fort propre. Lisait fort élégante. Elle avait infiniment d'esprit et chantait si bien qu'elle ne le cédait qu'à Mademoiselle Paulet, qui, on se le rappelle, fit un jour mourir de jalousie un rossignol. Au reste, inquiète, soupçonneuse, coquette, querelleuse, exigeante, elle rendait le pauvre marquis si malheureux que Madame de Rambouillet nommait son tourment l'enfer d'Anastarax. Anastarax est le nom que portait parmi les précieux le marquis de Montausier. Madame Aubry apprit cela et défendit sous peine de vie au pauvre marquis d'aller à l'hôtel de Rambouillet. Cette défense fit rompre la corde trop tendue. Lassé d'être le pâtitre de Madame Aubry, M. de Montausier la planta là et s'en fut tout droit et tout vif à l'hôtel dont l'entrée lui était défendue. Le déplaisir de la conseillère en fut si grand qu'elle se mit au lit, fit une confession générale et mourut. Ainsi se réalisa la prédiction de Madame de Rambouillet qui, regardant un jour dans la main du marquis, s'était écriée « Oh, fille, l'horreur ! Vous tuerez une femme !» Ce fut alors que M. de Montausier se déclara comme poursuivant de la belle Julie. Mais on allait avoir la guerre en Valtellin et on le remit après la campagne. Le marquis laissa tomber sa tête dans sa main, comme s'il eût été plongé dans une rêverie profonde. Puis, la relevant, « Madame, dit-il à Madame de Rambouillet, à mon tour de vous faire une prédiction. Je serai tué dans la campagne et c'est mon frère qui, plus heureux que moi, épousera la belle Julie. » Et, en effet, il partit en guerre, reçut une pierre à la tête et mourut du coup. Il y aurait eu moyen de le sauver en le trépanant, mais il s'y opposa en disant « Il y a déjà bien assez d'idiots au monde et de fous dans ma famille. » Le préjugé voulait à cette époque qu'un homme trépané devint idiot ou fou. Ne parlons plus de celui-ci, puisque le voilà mort. Si, parlons-en pour en dire un dernier mot. Le marquis de Montausier n'avait presque pas de cheveux. Il se fit raser et fut le premier qui porta perruque. Le fait méritait d'être consigné. Autre chose encore, c'était l'homme le plus ambitieux qui se pût voir. Il avouait qu'il n'y avait personne au monde, fût-ce son parent le plus proche ou son ami le plus cher, qu'il ne laissât pendre si cette pendaison pouvait le faire roi. Madame de Rambouillet, depuis le jour où il avait soutenu cette thèse, ne l'appelait que « El Rey de Georgia ». La nouvelle venait justement d'arriver en France qu'un simple particulier s'était fait roi de Géorgie. De son côté, Voiture lui écrivait « Il me déplaît de penser qu'avec toute cette tendresse que vous me témoignez, il y a quelque occasion pour laquelle vous voudriez que je fusse pendu. Je désire avec tant de passion que vous ayez tout ce que vous méritez, que s'il ne tenait qu'à ma pendaison pour que vous eussiez un royaume, sans mentir, je crois que j'y consentirais aussi bien que vous. » Monsieur de Montausier le cadet, que l'on appelait Monsieur de Sales, devint naturellement l'aîné à la mort de son frère et reprit le nom du défunt. Il y avait déjà 4 ans à cette époque qu'il était amoureux de Mademoiselle de Rambouillet. Il ne se déclara point, cependant, qu'il ne fût maréchal de camp et gouverneur de l'Alsace. Il est probable que son aîné connaissait cet amour et que ce fut ainsi qu'il prédit que de Sales épouserait Mademoiselle de Rambouillet quand lui, Montausier, ne serait plus là. Au reste, le nouveau Montausier, une fois son frère mort, ne cacha plus sa passion. Il la portait partout avec lui, il en parlait à tout venant, composait des compliments en prose, des madrigaux en vers, et tout cela en pure perte. Mademoiselle de Rambouillet n'y faisait aucune attention, disant qu'elle voulait rester vierge comme les muses. Mais lui persista toujours malgré les refus. Il semblait n'être que plus épris. 3 ou 4 ans avant de l'épouser, il lui envoya la guirlande de Julie, c'est-à-dire une des plus illustres galanteries qui aient jamais été faite. Cette guirlande était une guirlande de fleurs, chaque fleur était enluminée sur velin, et à la suite de chaque fleur, il y avait des vers écrits de cette belle écriture de Jarry dont nous avons déjà parlé. Le frontispice du livre était une guirlande au milieu de laquelle on lisait ce titre « La guirlande de Julie pour Mademoiselle de Rambouillet, Julie Lucine d'Angennes ». À la feuille suivante, il y avait un zéphyr qui épandait des fleurs. Le livre entier était couvert des chiffres de Mademoiselle de Rambouillet. Il n'y eut pas jusqu'au marquis de Rambouillet, père de Julie, qui n'y mit à la suite de l'hyacinthe un madrigal de sa façon. Voici ce madrigal. « Je n'ai plus de regrets à ces armes fameuses dont l'injuste refus précipita mon sort. Si je n'ai possédé ces marques glorieuses, un destin plus heureux m'accompagne à ma mort. Le sang que j'ai versé d'une illustre folie a fait naître une fleur qui couronne Julie. » Nous avouons que nous ne comprenons point parfaitement les quatre premiers vers. Peut-être cache-t-il un sens particulier qui n'est nullement donné par le récit mythologique. Tous les beaux esprits de l'époque concoururent à cette fameuse guirlande, à l'exception de Voiture. Il est vrai qu'amoureux de son côté de la belle Julie, ses chiens ne chassaient point avec ceux de M. de Montausier. Ce chef-d'œuvre de l'amour et de la calligraphie fut acquis en 1784 à la vente Lavallière par M. Penn, libraire anglais, au prix de 14 510 francs. La belle Julie reçut la guirlande, mais ne donna rien en retour. M. de Montausier crut que sa religion était un obstacle et se mit sous la protection d'un dieu plus propice, puis il traita du gouvernement de la Saintonge et de l'Angoumois pour 200 000 livres avec M. de Brassac, le mari de sa tante. Alors, se voyant gouverneur de deux provinces, il fit parler à la belle Julie par Mademoiselle Paulet et par Madame d'Aiguillon, nièce du cardinal. Mademoiselle de Rambouillet estimait fort M. de Montausier, mais elle ne pouvait vaincre son aversion pour le mariage. Le cardinal fut mis en avant et la reine elle-même. Tout échoua, si bien que la marquise de Rambouillet, qui désirait cette union, se retira un soir, toute désespérée de l'entêtement de sa fille. Julie, ayant vu sa mère porter un mouchoir à ses yeux, demanda ce qu'elle avait. On lui dit la cause des larmes de la marquise. « C'est bien, répondit-elle. Demain, elle ne pleurera plus. » En effet, le lendemain, elle annonça d'elle-même qu'elle était résolue à épouser M. de Montausier et mit toute la bonne grâce possible à dissimuler sa répugnance. Cependant, le mariage fut ajourné jusqu'à la fin de la campagne. M. de Montausier devait commander en Allemagne un corps de 2 000 hommes, mais M. de Turenne le força de rester en France. Quant au marquis de Pisani, il suivit M. le prince à l'armée. « Montausier est si heureux, dit-il en partant, que je ne manquerai pas de me faire tuer, puisqu'il va épouser ma sœur. » Il n'y manqua point, en effet. Nous avons dit comment il était mort. Le mariage se fit à Rueil, et M. Godot, évêque de Grasse, celui-là même que l'on appelait le nain de la princesse Julie, unit les deux époux. Les 24 violons, ayant appris que Mademoiselle de Rambouillet se mariait, vinrent spontanément lui donner une sérénade, disant qu'elle avait fait tant d'honneur à la danse qu'il serait bien ingrat s'il ne lui en était reconnaissant. M. de Montausier, malgré sa brusquerie allant jusqu'à la rudesse et sa franchise allant jusqu'à l'incivilité, n'en faisait pas moins très sérieusement le métier de bel esprit. Étant aussi précieux que sa femme était précieuse, il allait au samedi, c'est-à-dire aux assemblées chez Mademoiselle de Scudéry. Il faisait des traductions, mettait perse en vers français, voyait régulièrement messieurs Chapelain et Conrart, aimait mieux Claudien que Virgile et goûtait la pucelle avant toute chose. Dans le grand dictionnaire historique des précieuses, par Sommez, M. et Mme de Montausier ont chacun leur article sous les noms de Ménalidus et de Ménalide. Seulement, il y est parlé d'eux avec toute la gravité que leur nom commandait. Ménalidus, dit le biographe, joint les choses qui paraissent les plus éloignées. Il est vaillant et docte, galant et brave, fier et civil. En un mot, c'est un homme accompli. Sommez avait raison. M. de Montausier, malgré le petit côté ridicule que l'histoire littéraire attachait à son nom, garda dans l'histoire politique l'attitude d'un homme droit, loyal et désintéressé. En 1652, au plus fort de la Fronde, s'il eût voulu, quand M. le prince était en Saintonge, donner des soupçons au cardinal Mazarin, il eût été fait maréchal de France, mais il dit lui-même que c'eût été escroquer le bâton. Il fut fait duc et pair par lettre du mois d'août 1664, enregistrée au Parlement au mois de décembre 1665. Madame de Montausier devint mère à près de 40 ans et fut fort malade à la suite de ses couches. On envoya Chavaroche. À propos de son duel avec Voiture, nous avons dit ce qu'était Chavaroche. On envoya Chavaroche chercher à Saint-Germain-des-Prés la ceinture de Sainte-Marguerite, relique qui passait pour fort efficace dans ces sortes de douleurs. C'était en été, à la pointe du jour. Or, Chavaroche, qui en tenait encore pour la belle Julie, quoiqu'elle fût devenue Madame de Montausier, trouva les moines au lit, et comme ils tardaient à se lever, Il se mit dans une si grande colère qu'il s'écria « Voilà, par ma foi, de beaux fichus moines qui se permettent de dormir quand Madame de Montausier accouche. » Madame de Montausier mit au jour deux jumeaux. Le premier mourut au bout de 3 ans des suites d'une chute, et le second, pour n'avoir jamais voulu prendre le sein d'une autre nourrice que celle qu'on lui avait donnée d'abord et qui perdait son lait. « Celui-là, dit Almandéréo, en donnant ce signe d'entêtement, prouva bien qu'il était le digne fils de son père. » Après ces deux jumeaux, Madame de Montausier eut une fille. Elle en eut même plusieurs, mais ne parlons que de l'aînée. Dès sa grande jeunesse, l'enfant qui chassait de race promit d'être une précieuse de premier ordre, et toute la société de l'hôtel de Rambouillet répétait en extase les jolis mots qu'elle disait. On amena chez M. de Montausier un renard qui appartenait à M. Godot. La petite fille, en voyant l'animal, demanda ce que c'était. « C'est un renard, lui dit-on. »« Oh, mon Dieu » fit-elle en portant les mains à un collier de perles dont on lui avait fait cadeau 8 jours auparavant. « Pourquoi portes-tu les mains à ton collier ?» lui demanda sa mère. « Oh, maman, j'ai peur qu'il ne me le vole. Les renards sont si fins dans les fables d'Ésope. » Quelque temps après, on lui montra M. Godot. « Tiens, lui dit-on, c'est le maître du renard que tu as vu l'autre jour. »« Ah, vraiment ?» dit-elle. Et elle le regarda attentivement. « Eh bien, qu'en penses-tu »« Qu'il a l'air encore plus fin que son renard. » M. Godot, qui était de très petite taille, crut l'embarrasser en lui demandant « Combien y a-t-il de temps que votre grande poupée a été sevrée ?»« Mais, répondit l'enfant, vous devez le savoir. »« Comment le saurais-je ? » ?»« Parce qu'elle a dû être sevrée en même temps que vous. Vous n'êtes guère plus grand qu'elle. » « Que fais-tu là ?» lui demanda un jour sa grand-mère en lui voyant barbouiller du papier. « Une tragédie, grand-maman » répondit-elle. « Comment, une tragédie ?»« Oui, mais il faudra, grand-maman, que vous priez un peu Monsieur Corneille d'y jeter les yeux avant que nous la jouions. » Sa gouvernante, lui apportant un bouillon, lui dit pour la déterminer à le prendre. « Prenez ce bouillon pour l'amour de moi, ma chère enfant !» La petite le goûta et, le trouvant bon, « Je le prendrai pour l'amour de moi et non pour l'amour de vous, » dit-elle. Monsieur de Nemours, archevêque de Rouen, lui disait qu'il la voulait épouser. « Gardez votre archevêché, monseigneur, » répliqua-t-elle, « il vaut mieux que moi. » Nous avons dit que Madame de Rambouillet restait presque constamment au lit. Un jour, l'enfant prit un siège à sa taille et alla s'asseoir auprès du lit de la marquise en disant « « Ça, grand-maman, maintenant que je suis raisonnable, parlons des affaires d'État. » Elle avait 5 ans. Lorsque son grand-père mourut, en 1652, voyant Madame de Rambouillet fort triste, « Consolez-vous, grand-maman, lui dit-elle. Si grand-père est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Ne voulez-vous point ce que Dieu veut ?» D'elle-même et sur ses épargnes, elle s'avisa de faire dire des messes pour le marquis. « Ah !» dit sa gouvernante, « si votre grand-papa qui vous aimait tant savait cela ?»« Il le sait !» dit l'enfant. « Comment il le sait ?»« Sans doute, ceux qui sont devant Dieu ne savent-ils pas tout ?»« C'est dommage, dit Almandéréo, qu'elle ait les yeux de travers, car elle a la raison bien droite. Pour le reste, elle est grande et bien faite. » Pourtant, il ajoute, « elle s'est gâtée depuis pour l'esprit et pour le corps. » Quant aux autres filles de Madame Rambouillet, lesquelles se firent religieuses, à l'exception d'Angélique Clarisse d'Angenne, qui épousa le comte de Grignan, leur vie se passa dans les briques du couvent et ne vaut pas la peine que nous nous en occupions. Nous passerons donc, avec la permission de nos lecteurs, à 2 grandes figures de l'époque qui se rattachent par plus d'un côté à la Société des Précieuses et dont il a été dit quelques mots dans le courant de ce chapitre. Nous voulons parler de monsieur et de mademoiselle de Scudéry. Scudéry, ou plutôt Georges de Scudéry, était originaire de Sicile. Ses ancêtres passèrent en Provence en suivant le parti des princes de la maison d'Anjou. Son père était attaché à André-Baptiste de Brancas, seigneur de Villars, gouverneur du Havre, créé amiral par Henri IV en 1594 et demeura toujours près de lui. De là l'honneur qu'eut la ville du Havre de donner naissance à Scudéry et à sa sœur. Scudéry naquit en 1601. Il commença par avoir un régiment dans la guerre du Piémont. Puis il s'amusa à faire des pièces de théâtre. D'abord Ligdamon et Lydias ou La Ressemblance, puis Le Trompeur puni ou L'Histoire septentrionale. Tout cela tiré de l'Astrée. Il avait fait faire son portrait avec un juste corps de buffle et gravé ses mots alentour. Et poète et guerrier, il aura du laurier. On en fit une caricature et aux deux vers que nous venons de citer, on substitua ceci. Et poète et gascon, il aura du bâton. Il avait donné une édition des œuvres de Théophile, qui était son auteur de prédilection, et il avait mis dans la préface « Je ne fais pas de difficulté de publier que tous les morts ou tous les vivants n'ont rien qui puisse approcher des forces de ce vigoureux génie, et si, parmi les derniers, il se rencontre quelque extravagant qui juge que j'offense sa gloire imaginaire pour lui montrer que je le crains autant que je l'estime, je veux qu'il sache que je m'appelle de Scudéry. » Scudéry avait, comme on le voit, le courage de ses opinions. Il était de ceux, et l'on doit pardonner à ceux-là, l'encens de la flatterie leur tournait la tête. Il était de ceux, disons-nous, qui croyaient fermement deux choses. C'est que leurs arrêts en littérature étaient sans appel et que le monde gravitait autour d'eux. Écrivant une lettre à la louange d'un de ses amis, Scudéry disait en commençant « Si je me connais en fer et je pense m'y connaître » et en terminant, « C'est de mon avis, je le soutiens, je le maintiens, et je signe de Scudéry. » À la suite d'un catalogue de ses ouvrages, il écrivait « Et à moins que les puissances souveraines ne me l'ordonnent, je ne travaillerai plus à l'avenir. » Dans une lettre à sa sœur, il disait « Vous êtes mon seul renfort dans les débris de ma maison. » De son côté, mademoiselle de Scudéry, comme s'il se fût agi du bouleversement de l'Empire grec, ne manquait jamais de dire « Depuis le renversement de notre maison. » Madame d'Aiguillon voulut faire donner à Scudéry la lieutenance d'une galère, mais lui refusa, disant que, dans sa maison, il n'avait jamais eu que des capitaines. Il avait, en effet, consigné la chose dans ses quatre vers. « Moi qui suis fils d'un capitaine que la France estima jadis, je fis des desseins plus hardis. » Ma Minerve est bien plus hautaine. » Scudéry, si bien partagé du côté de la famille et du côté du génie, avait fort peu de chance du côté de la fortune. Une fois cependant, il crut être sur le point de rentrer dans une petite dette de famille. Un ami de son père, qui lui devait 10 000 écus, lui écrivit de venir les toucher à Paris. Scudéry et sa sœur partent du Havre. À Rouen, ils trouvent une personne de leur connaissance qui arrivait de Paris. « Quelle nouvelle ?» demanda Scudéry. « Ma foi, aucune. Ah, si fait. Hier, un tel, se promenant parmi des milliers de gens sur le boulevard de la Tournelle, a été tué d'un coup de tonnerre. Le mort était l'homme aux 10 000 écus. » Par Philippe de Cospéan, évêque de Lisieux, dont nous avons dit quelques mots à propos des nymphes de Rambouillet, la marquise lui fit avoir le gouvernement de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Au moment de délivrer les expéditions de cette charge, M. de Brienne écrivit à Mme de Rambouillet qu'il était de dangereuses conséquences de donner ce gouvernement à un poète qui avait fait des poésies pour l'hôtel de Bourgogne. Mme de Rambouillet répondit qu'elle avait trouvé dans un ancien auteur que Scipion l'Africain avait fait des tragédies. « Oui, riposta M. de Brienne, mais il ne les a pas fait jouer à l'hôtel de Bourgogne. » Les expéditions n'en furent pas moins envoyées à Madame de Rambouillet. Scudéry partit donc pour Marseille et s'installa à Notre-Dame-de-la-Garde. Madame de Rambouillet disait de lui « Cet homme-là n'aurait pas voulu un gouvernement dans une vallée, et il doit être magnifique à voir sur son donjon de Notre-Dame-de-la-Garde, la tête dans les nues, regardant avec mépris tout ce qui est au-dessous de lui. » Parmi les aventures dont il était le héros et qui flattaient sa vanité, en voici une que racontait Scudéry. Un grand seigneur des Pays-Bas était venu le prier de vouloir bien lui faire 3 stances, l'une sur le bleu, l'autre sur le vert et la dernière sur le jaune. Ce grand seigneur, amoureux d'une dame qui portait ses 3 couleurs, avait pris la poste exprès pour venir lui demander cette grâce. « Eh, monsieur, lui dit Scudéry, ne voulez-vous que 300 ?»«
Oui, monsieur de Scudéry. »«
3, c'est bien peu. Laissez-moi faire au moins 2 strophes sur chaque couleur. »«
Non, monsieur, il ne me faut que 3 stances. »
Scudéry les fit, mais en grognant d'être restreint sur un si beau sujet. Il va sans dire que Scudéry fut de l'Académie. Mademoiselle de Scudéry se lança dans la carrière littéraire par les harangues des femmes illustres et l'illustre Bassa. Elle mettait tout sous le nom de son frère afin que cela se vendît mieux, car c'était lui qui avait la réputation. Ce fut ainsi qu'elle fit Cyrus et Clélie. Dans le monde des précieuses, elle avait nom Sappho. Tout cela, œuvre de la sœur, œuvre du frère, se vendit fort bien. Mais par malheur, le frère, comme chef de la communauté, touchait l'argent et en achetait des tulipes. La carte du tendre, qui, d'après l'avis de Chapelain, fut mise dans la Clélie, était de Mademoiselle de Scudéry. Sappho avait pris le samedi pour demeurer chez elle, et ses soirées avaient un tel retentissement que lorsqu'on disait « Allez-vous au samedi ?», on savait que cela voulait dire « Allez-vous chez Mademoiselle de Scudéry ?». Le grand rival de Scudéry était la Calprenède. Ces deux illustres ne se pouvaient voir ni sentir. La Calprenède était gascon, Scudéry gascon et demi. Et cependant, le premier était né au château de Toulgou, près de Sarlat, et le second au Havre. La Calprenède s'appelait Gautier de Cosse de la Calprenède. Il vint jeune à Paris et débuta par la mort de Mithridate, qui fut imprimée en 1637. Il racontait qu'il avait rimé malgré toute sa famille, et surtout malgré son père, lequel trouvait que c'était déchoir à un La Calprenède que de se faire poète. « Un jour que mon père me trouva faisant des vers, dit-il, il fut si indigné qu'il prit un pot de chambre et me le jeta à la tête. »«
C'est de là que vous avez la tête fêlée ?» demanda l'ami auquel il racontait l'anecdote.
« Non, répondit le poète, car j'évitais le projectile qui alla donner contre la muraille. »
Alors ce fut le pot de chambre qui fut cassé.
Apprenez, mon cher, repartit la Calprenède, qu'au château de mon père, tous les pots de chambre sont en argent. En fait de roman, il publia d'abord Cassandre, où la plupart des héroïnes sont veuves, parce qu'il était amoureux d'une veuve. Puis Cléopâtre, dont il eut l'idée de faire la plus honnête femme de la terre. Le premier n'avait que 10 volumes, le second en eut 20. Il allait d'habitude chez une Madame Bonté. Il y rencontra une petite veuve appelée Madame de Braque. Celle-ci était folle de ses romans et avait quelques biens. Elle l'épousa à la condition qu'il finirait la Cléopâtre. La clause fut mise au contrat. C'était le plus grand hâbleur du monde. Un jour qu'il allait par les rues avec Sarrazin, il voit passer un cavalier et se met à crier «
Faut-il que je suis malheureux ? Faut-il que je suis malheureux ?»
« Qui a-t-il donc ?» lui demande Sarrazin. « Et quelle mouche vous pique ?»«
J'avais fait serment des tous et ses couquins la première fois que je les rencontrerai. »
« Eh bien, dit Sarrazin, l'occasion est belle puisque le voici. »«
Oui, mais par malheur, j'allais hier à confesser et j'ai promis à mon confesseur de les laisser encore un peu des temps. »
Sarrazin disait « Que voulez-vous ? Il a tant donné de cœur à ses héros qu'il n'en a pas gardé pour lui. » Quelques jours après son mariage, la Calprenède, étant allée faire visite à Scarron, lui dit tout en causant
« J'ai laissé un homme en bas. Je vous prie, Scarron, faites monter cet homme. »
Puis, comme Scarron allait donner l'ordre,
« Non, non, reprit-il, c'est inutile, n'en faites rien. »
Ce qui ne l'empêchait pas d'ajouter un instant après «
Cependant, je crois qu'il serait mieux de faire monter ces pauvres hommes. »
Voyons, dit Scarron, vous voulez me faire entendre que vous avez en bas un gentilhomme de votre suite. C'est bon, je me le tiens pour dit. Après Cassandre et Cléopâtre, la Calprenède fit imprimer un roman de Pharamon qu'il signa Gautier de Coste, chevalier, seigneur de la Calprenède, Toulgou, Saint-Jean de Liviette et Vatimesnil. Quant à Sarrazin, que nous venons d'apercevoir allant par les rues avec lui, et qui était aussi un des beaux esprits du temps, c'était le fils d'un trésorier de France en la ville de Caen. Quoique sa naissance fût médiocre, il vint à Paris jouant l'homme de grande famille, et fit connaissance de Mademoiselle Paulet, qui le présenta partout comme un homme de bon lieu et fort à son aise. Il est vrai qu'il avait un carrosse, mais ses chevaux, dit Allemand des Réaux, étaient les plus mal nourris de France. Lors de la guerre de Paris, le coadjuteur fit tant par le moyen de Madame de Longueville que le prince de Conti prit Sarrazin pour secrétaire. Celui-ci resta chez le prince jusqu'à sa mort, mort tragique du reste, car il fut, dit-on, empoisonné par un catalan qui le soupçonnait d'être l'amant de sa femme. Ce qui rend la chose probable, c'est que la femme du catalan mourut le même jour, à la même heure et de la même maladie.